Chaque semaine, un des membres de la Ligue des droits de l'homme se relaie au micro Divergent pour un zoom de 5 minutes sur une de leurs actions ou campagnes. Et aujourd'hui, c'est avec Patrice Rigaud que nous sommes. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Alors, pour évoquer un fait divers méconnu de la guerre d'Algérie, un triste anniversaire, celui du 17 octobre 1961.
Exactement. Donc nous allons donc fêter ce triste anniversaire la semaine prochaine. Je me replace dans le contexte. La guerre d'Algérie dure depuis 1954. Il y a eu la bataille d'Alger en 1957. Il y a eu les accords qui sont en voie de conclusion entre le gouvernement français et le FLN. Il y a eu le putsch des généraux en avril 1961. Et la tension monte entre les communautés. La tension est très grande du côté des Français d'Algérie, dont certains sont membres de l'OAS, qu'a créé le général Salan à la suite du putsch d'avril 61. Et il y a des attentats terroristes aussi bien en Algérie qu'en France. Les bombes éclatent un peu partout, il y a des morts, c'est une tension maximale. Et du côté des Algériens, le FLN est de plus en plus actif, il est très organisé en France. Il collecte les fonds pour soutenir sa guerre et la communauté algérienne est très très importante en France. Voilà donc qu'arrive en octobre 1961 une circulaire du préfet de police de Paris. Le préfet de police, c'est Maurice Papon. Et il déclare que le couvre-feu doit s'appliquer. Un couvre-feu est applicable pour les Français musulmans d'Algériens de 20h30 à 5h30 du matin. Ceux qui seront interpellés pendant ces heures sur la voie publique devront être conduits au poste. Le FLN décide de résister et le comité fédéral de la Fédération de France du FLN déclare, après étude de la situation créée par les nouvelles mesures répressives prises, couvre-feu, transfert en Algérie, exécution sommaire de compatriotes, le comité fédéral a pris les décisions suivantes. Les Algériens boycotteront le couvre-feu. À compter du samedi 14 octobre 61, ils devront sortir en compagnie de leurs femmes et de leurs enfants en masse. Ils doivent circuler dans les grandes artères de Paris. Exemple, Champs-Élysées, boulevard Saint-Michel, boulevard Saint-Germain, boulevard Montmartre. Une manifestation aura lieu devant la préfecture de police le troisième ou le quatrième jour après le déclenchement du boycott du couvre-feu. Faites votre possible pour faire participer le maximum de femmes algériennes. Faites en sorte que la manifestation soit encadrée par des militants expérimentés. Évitez les provocations de tous bords. Ne portez aucune arme.
Voilà, des consignes qui sont données pour justement protester contre ce couvre-feu.
Exactement.
À cette époque, face au FLN, il y a aussi les supplétifs algériens de la police française, les FPA, ou comment dresser les gens d'une même communauté les uns contre les autres.
Absolument. Et il y a les harkis, les forces, ce qu'on appelle les harkis, c'est-à-dire les forces armées algériennes dans l'armée française.
Et donc c'est l'époque où il y a beaucoup de, vous le disiez, beaucoup d'attentats, des attentats du FLN contre la police française qui vont en augmentant entre 58 et 61.
Ah oui, certainement, mais presque toujours en riposte contre les attentats organisés par l'OAS, qui frappe indifféremment et d'une manière absolument odieuse entre avril et la fin de la guerre.
Des attentats qui poussent la police française à l'époque à devenir à vouloir se faire justice elle-même en quelque sorte.
Exactement. Sans compter qu'il y a dans ses rangs pas mal de gens qui sont racistes et qui vont laisser libre cours à leurs instincts.
Et donc tout ça, le 17 octobre 61, amène à des événements, un massacre, en quelque sorte.
Exactement. Le 17 octobre 1961, l'événement, donc, 30 000 manifestants viennent dans Paris, convergent vers le centre. Ils viennent généralement de la banlieue, où ils habitent, des endroits pauvres. Ils habitent Aubervilliers, ils habitent le Blanc-Mesnil, ils habitent des gens comme ça. Et puis, je vais vous lire le témoignage d'un homme, Abdelaziz, qui travaillait dans le bâtiment, Il est militant du FLN pour lequel il récolte de l'argent. Et il écrit ceci. Le 17 octobre 1961, j'ai pris le bus 148 du Blanc-Mesnil pour rejoindre l'église de Pantin. De là, je me suis rendu à la place d'Italie en métro. J'étais seul pour éviter toute suspicion de la police. Dans le wagon, je n'osais pas m'asseoir à côté d'Algériens ni les regarder. Je ne portais aucune arme. C'était interdit par le FLN. Arrivé là-bas, un chef de file s'empressa de me donner un brassard vert que je me mis autour du bras. Je devins pour l'occasion agent de circulation, sauf que je dirigeais des Algériens, des femmes, des hommes, des vieillards et des enfants. Le noir de la foule s'obscurcissait. Nous marchions vers les grands boulevards, en passant par Nation, en brandissant des banderoles, « Vive le FLN, l'Algérie algérienne, libérez Ben Bella ». Plus nous avancions, plus les coups de matraque tombaient sur nous. Il ne fallait pas s'approcher des extrémités de la manifestation, car les policiers et les CRS y distribuaient des coups de matraque à tout bas, les harkis se jetaient à quatre sur une victime, les femmes qui traînaient leurs enfants affamés en pleurs n'étaient pas épargnées. On embarquait les hommes dans des cars et des paniers à salade sous les coups de matraque et de crosse, le sang giclait. La violence a augmenté à Nation. La police tirait sur les gens qui tombaient blessés ou morts. Tout le monde fut pris de panique. Je retirai par la même occasion mon brassard, je courus jusqu'à la bouche de métro et je parvins à rentrer chez moi en sang et meurtri par les blessures.
Alors plusieurs milliers de manifestants sont interpellés, arrêtés, conduits dans les lieux assez vastes pour les contenir tous. Et puis ce massacre fait, d'après les autorités, beaucoup moins de morts que les 200 morts qu'on annonce du côté du FLN.
Il y a eu officiellement 11 358 personnes arrêtées. Ces personnes ont été transférées au parc des expositions pour être parqués. Et officiellement, on a fait état de 2 morts et de 64 blessés. Pour le FLN, en réalité, c'est 200 morts et 400 disparus. Et les gens ont été sauvagement frappés et beaucoup ont été jetés dans la Seine, à différents endroits, et en particulier au pont de Pantin. Encore un témoignage, si vous le voulez bien.
Oui.
Un quart de police vient d'arriver bourré de musulmans. Un camarade me fait signe. Nous sortons devant le palais pour assister discrètement au déchargement. 20 à 30 policiers, disposés en deux haies latérales derrière le véhicule, sont chargés d'orienter les Algériens vers l'entrée. Entre leurs mains, matraque en bois, en caoutchouc, planche de bois, nerf de bœuf. À l'intérieur du car, un policier pousse les prisonniers à coups de crosse de fusil ou de mitraillette. S'ils ne vont pas assez vite, les policiers qui les attendent en bas du marchepied les tirent violemment et les font tomber sur le béton. Les Algériens se présentent à la porte arrière des cars sous la lumière aveuglante des projecteurs. Ils ont 15 à 20 mètres à franchir, main sur la tête, entre le véhicule et l'entrée. Dès leur descente, ils sont frappés à coups de matraque, de nerfs de bœuf, de crosse. Ceux qui, épuisés, tombent sur le ciment ont droit à des coups de pied dans le ventre, dans les parties, sur la figure. Pour échapper aux coups, les Algériens se mettent à courir. Un croc-en-jambe les arrête. D'autres, précipités sur le ciment, ne se relèvent pas. Ils sont négligemment poussés sur le côté. Nous en distinguons grièvement blessés qui se traînent sur les genoux sous la pluie des coups. Des jeunes se font casser les doigts et les avant-bras en se protégeant la tête. Une crosse de fusil se brise comme du bois sur le dos d'un musulman. Le policier se retire avec un air déçu. Les hurlements de peur et de souffrance poussés par les Algériens achèvent de rendre cette scène irréelle. Un camarade écœuré par vomir à l'écart. C'est un témoignage de Guy Hébert, appelé du service sanitaire des armées.
Alors, rappeler ce massacre du 17 octobre 61 pour la Ligue des droits de l'homme, c'est aussi faire en sorte qu'on ne l'oublie pas, de sorte à ce que ça ne se reproduisent pas, puisque on voit bien qu'en ce moment il y a beaucoup de tensions et que le contexte économique, s'il venait à se dégrader davantage, aurait tendance à exacerber la peur des uns des autres. Est-ce que vous avez le sentiment que de tels événements, pas nécessairement envers cette communauté, mais peut-être envers une autre, pourraient avoir lieu aujourd'hui en Europe? Enfin, en France, puisqu'en Europe, il y a déjà des pays où c'est un peu craignos, quoi.
Oui, on ne sait jamais. Vous voyez ce qui se passe en Tunisie, vous voyez ce qui se passe en Égypte, par exemple, aujourd'hui, quoi. Vous voyez ce qui se passe en Syrie. Et en France, je ne sais pas si on en arriverait jusque-là, mais enfin, il faut être vigilant. Et il faut surtout que la mémoire inspire l'histoire. Mmh. Mais pas une mémoire repentante ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Il faut que la mémoire serve à ce que les historiens rétablissent les faits. Et on a besoin de savoir les faits. Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui sont d'origine musulmane. 5 millions de Français avec des cartes d'électeurs dans la poche. Et ces gens-là ont besoin de connaître d'où ils viennent. Ils veulent savoir ce qui s'est passé. Mmh. On n'a rien à cacher, il faut bien montrer les choses. Alors, il y a un film qui a été fait au moment des événements qui s'appelle « Octobre à Paris » de Jacques Panigel. Ce film a été interdit par la censure jusqu'en 1973. Jacques Panigel voulait, si son film pouvait sortir, qu'il soit précédé d'une préface avec des témoignages et en évoquant la censure. Ça n'a jamais pu être possible. Jacques Panigel est décédé en 2010. Mmh. Mais ses ayants droit ont discuté avec un Algérien qui s'appelle Mahdi Lalaoui, auteur d'un film, de plusieurs documentaires, notamment sur la mémoire du fleuve. Et Mahdi Lalaoui a réalisé 19 minutes d'entretien avec des témoignages, des témoins directs, qui précèdent le film de Panigel. Et le film de Panigel va sortir en France, là, bientôt, très bientôt, à partir du 19 octobre. Je vous invite à aller le voir.
Il sortira en salle.
Il sortira en salle. Mmh.
Ouais. Éventuellement, ça peut faire l'objet d'une projection aussi par la Ligue des droits de l'homme.
Si c'est possible, je n'en sais rien, mais nous en serions très intéressés par ça, évidemment.
Et puis, on s'en fera peut-être l'écho dans Cinérama.
Je voudrais oui. Une conclusion.
Oui.
Je voudrais vous lire un extrait du journal de Mouloud Feraoun. Mouloud Feraoun était un instituteur qui a été assassiné par l'OAS en février 1962. Mmh. Et peu de temps avant de mourir, en décembre, très exactement, le 26 septembre 1961, il écrivait ceci. « Bientôt, on le sent, ce sera la fin. Mais quelle fin ? La plus banale, peut-être, qui sera aussi pour chacun la plus logique. Peut-être aussi la plus inattendue, qui apparaîtra après coup comme la seule possible, celle à laquelle chacun jurera d'avoir songer, qui n'étonnera donc personne, mais contentera tout le monde, permettra enfin à ceux qui sont encore là de se remettre à vivre en commençant par oublier. Bientôt, une page sinistre sera tournée et le soleil tout blanc se lèvera dans un ciel pur pour éclairer de son éternelle promesse un pays désolé, indifférent à la douleur des hommes et insensible à ses propres ruines. »
Patrice Rigaud, merci. On vous retrouvera chaque mois puisque vous êtes quatre de la Ligue des droits de l'homme à vous relayer chaque semaine le mardi pour le direct. Et puis on vous souhaite tout de bon. Et puis on rappelle la sortie du film à partir du 19 octobre.
Merci. Et je voudrais vous inviter à lire un très beau livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Algérie 1954-1962, lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre », avec plein de documents et de témoignages. C'est un livre de Benjamin Stora avec Tramor Kemener, paru aux éditions Les Arènes.
C'est noté. Merci Patrice.
Merci à vous.